Une autre fête des tabernacles a pris fin, et nous voilà rendus au dernier grand jour, 2021. Quel jour merveilleux! Ce dernier jour saint est sûrement le préféré de plusieurs membres de l'Église, en raison de ce qu'il signifie concernant nos amis, nos parents et les personnes dans le monde que nous ne connaissons pas. Beaucoup de gens, même dans l'Église, ont du mal à saisir le sens de certaines choses qu'ils lisent dans l'Ancien Testament, en essayant de comprendre la pensée de Dieu. Par exemple, nous lisons que des villes entières ont été détruites, des nations ont été anéanties, et c'est Dieu qui a ordonné leur destruction. En fait, il a exterminé l'ensemble des êtres vivants à l'époque de Noé, et plus tard, les gens de Sodome, de Gomorre et des villes de la plaine. On peut donc se demander, quelle valeur Dieu accorde-t-il à la vie d'un être humain? La vie a-t-elle peu de valeur pour Dieu? Parmi les messages donnés en ce dernier grand jour, nous allons voir que la vie humaine n'est pas sans valeur pour Dieu. Au contraire, elle est précieuse à ses yeux, et dans ce sermon, je vais mettre en perspective la perte des vies permises ou même provoquées par notre Créateur au fil du temps. Comme le Dr. Douglas Winnale nous le rappelle souvent, nous devons considérer la vue d'ensemble, la grande perspective. Commençons par le premier chapitre de la Genèse et lisons le verset 26. C'est le chapitre de la création, comme on l'appelle, lorsque Dieu a renouvelé la surface de la terre et y a créé la vie une fois de plus. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » L'homme n'a donc pas été créé comme le bétail, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Il a été créé d'une manière très spéciale, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela devrait nous faire prendre conscience que nous sommes dans une catégorie à part. Nous sommes différents de tous les animaux. Nous ne sommes pas une sorte d'animal supérieur. Oui, nous avons une existence animale, pourrait-on dire une existence physique et chimique temporaire, mais nous ne sommes pas comme les animaux, qui n'ont pas le potentiel de l'homme. Dieu créa donc l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a fait homme et femme, selon sa volonté, un plan merveilleux que le monde d'aujourd'hui veut confondre et mélanger, au point que le mot homme ou femme est censuré dans certains cas. C'est triste de voir la direction que prend notre monde, mais c'est ainsi que Dieu nous a créés, selon un dessein précis, dans le but ultime que nous devenions comme lui, des fils et des filles de notre Créateur. Nous lisons toutefois dans le troisième chapitre que l'homme a choisi de déterminer lui-même le bien et le mal au lieu de se fier à la parole de Dieu. Nous lisons au verset 2 du chapitre 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » C'est le choix qu'il devait faire. Mais Adam et Ève ont choisi le mauvais arbre, même si Dieu leur avait dit que la mort en résulterait. Cela ne se produirait pas nécessairement le jour même, bien que ce soit le cas dans un sens plus large, où un jour équivaut à 1000 ans. Mais le jour de leur mauvais choix, ils se sont placés sous la peine de mort. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Vous serez capable de déterminer vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Nous savons que l'humanité a choisi la mauvaise direction. Ève a été trompée par le serpent. Adam ne l'a pas été. Il était faible, il a cédé à sa femme, et le résultat final a été qu'ils ont été chassés du jardin et que la mort en a résulté depuis lors. Nous en arrivons au sixième chapitre du livre de la Genèse, le livre des commencements. Nous n'avons pas besoin d'aller très loin. Nous voyons l'époque où le monde était arrivé à un tel état de péché que Dieu, dans sa miséricorde, a effacé toute vie, à l'exception de Noé et de sa famille. 8 personnes. Nous allons lire quelques versets. Le premier est le verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. la terre était pleine de violence. Nous voyons que notre monde actuel est rempli de violence. Hier encore, au moment où j'ai écrit ces lignes, 9 personnes ont été tuées, en plus du tireur, à San Jose, en Californie. Et lorsque je me préparais pour une présentation du monde de demain, le 5 avril dernier, il y avait déjà eu plus de 140 meurtres par arme à feu aux États-Unis. Des situations où 4 personnes ou plus avaient été blessées ou tuées. Pensez-y. Du 1er janvier au 5 avril, c'était 142, si je me souviens bien, ou 140 meurtres qui ont eu lieu. Et depuis lors, nous avons eu plusieurs autres tueries de masse, impliquant 4 personnes ou plus abattues ou blessées à la suite d'une violence armée. Il existe d'autres formes de violence qui se produisent de temps à autre dans différents endroits à travers le monde, comme la violence à l'arme blanche et la violence au moyen d'une automobile. Nous savons qu'un tel incident s'est produit dans le sud de la France où de nombreuses personnes ont été tuées. Dans la ville de Toronto, une personne au volant d'une camionnette a semé la mort, fonçant délibérément sur des piétons. Notre monde actuel est donc rempli de violence. Et je ne parle même pas de la violence individuelle. Lorsqu'une personne tue une autre personne, tire sur une autre personne ou poignarde quelqu'un, toutes sortes de violences se produisent dans notre monde aujourd'hui. Il dit aussi au verset 5 que « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Nous voyons la pornographie, nous voyons la violence, nous voyons le sexe présenté à la télévision d'une manière qui ne devrait vraiment pas être présentée du tout. Nous constatons aujourd'hui que tous les comportements humains sont continuellement et totalement mauvais. C'était ainsi avant le déluge. Or, Dieu nous dit qu'il en sera de même lorsque le Christ reviendra. Nous pouvons le lire au 17e chapitre de Luc. Ce serait comme au jour de Noé, avant le déluge. Ce serait comme au jour de Lot. Et quand nous regardons autour de nous, nous voyons que c'est exactement ce qui se passe. Nous devons en conclure que c'est l'homme qui a dévalorisé la vie. La preuve de cela se trouve dans le 4e chapitre de la Genèse, où nous constatons qu'au tout début, avant même le déluge, la violence avait déjà commencé. Nous y lisons que Caïn a assassiné son frère Abel. Je ne lirai pas tout pour l'instant, je pense que nous le connaissons tous. Caïn a tué Abel. Il a assassiné son frère, son propre frère, pensez-y. Quelle chose terrible! Ce fut le tout premier meurtre, bien que nous sachions que Satan était un meurtrier dès le début. Son intention était de tuer, de détruire toute l'humanité. Nous voyons qu'il s'agit là de la véritable origine du meurtre et de la violence, et nous en voyons beaucoup dans notre monde aujourd'hui. Autre exemple de violence, l'avortement. De nos jours, l'endroit le moins sûr pour un bébé est le ventre de sa mère. C'est une terrible tragédie, pas seulement ici aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, mais dans d'autres parties du monde. Le Japon, la Chine, l'Inde. Dans tous ces endroits, l'avortement est très courant. Tout cela en plus des meurtres et des tentatives de meurtre, comme nous l'avons mentionné. Et bien sûr, il y a la guerre où une nation attaque une autre nation. Non pas sur la base de la direction de Dieu, mais sur la base d'idées humaines. Cela commence généralement par le désir de domination de quelqu'un, que ce soit Hitler ou Mussolini, qui veut contrôler une plus grande partie du monde. Résultat, nous nous retrouvons avec des guerres et des montagnes de morts. Nous voyons une autre situation dans le 15e chapitre de la Genèse, où Dieu dirige une perte de vie, en plus du déluge. Allons à Genèse, chapitre 15. Commençons par le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans, Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Dieu n'allait donc pas retirer les Amoréens de ce pays pour qu'Israël en prenne possession jusqu'à ce que l'iniquité, jusqu'à ce que le péché atteigne un certain niveau où Dieu dirait que c'est assez. Maintenant, reportons-nous au livre de Lévitique, le 18e chapitre. Dans ce chapitre se trouve la description de toutes sortes de relations sexuelles inappropriées, allant de l'adultère à l'inceste. Il y est aussi question de bestialité, d'homosexualité. Toutes ces choses y sont énumérées. Puis, au verset 20, il dit, « Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. » Donc, il pratiquait le sacrifice humain dans le pays. « Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. « Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est célébré. Tu ne coucheras point avec une bête. » Cela a été un problème tout au long de l'histoire, même aujourd'hui. Nous n'en entendons pas beaucoup parler, mais qui sait, avant la fin, combien nous en entendrons parler de plus en plus. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. En d'autres termes, l'iniquité des Amoréens était arrivée à un degré tel que Dieu a dit, « Assez, c'est assez. Je vais exterminer ces gens pour leur propre bien, parce que ces choses n'apportent pas le bonheur. » L'une des choses qui caractérise notre monde d'aujourd'hui est le mouvement trans. Des études ont démontré que les personnes qui se transforment ainsi ont un taux de suicide 20 fois plus élevé que la population en général, après une période d'environ 10 ans. Ils semblent heureux au début, mais cela ne produit définitivement pas le bonheur qu'ils attendaient. Résultat, des illusions, chagrins et dépressions telles qu'ils s'enlèvent la vie dans de nombreux cas, 20 fois plus que la moyenne de la population. Cela montre qu'il y a un problème qui les a poussés à faire ce qu'ils ont fait, un problème qui n'a jamais été résolu. Ainsi, Dieu met parfois des gens à l'écart pour leur propre bénéfice. Nous allons continuer à lire au verset 25. « Le pays a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. » Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de toi, car ce sont là toutes les abominations que nous lisons dans ce 18e chapitre, qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays a été souillé. Il dit de ne pas le faire. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Dans notre monde occidental, dans les nations israélites surtout, nous allons dans cette même direction, où Dieu va nous vomir de la terre à cause de nos péchés, tout comme il a éliminé ces individus. Un autre cas se trouve dans le 17e chapitre de l'Exode. Un autre groupe de personnes que Dieu a décidé de voir exterminer. Les gens ont parfois du mal à comprendre ces choses. Ici, dans Exode 17, verset 18, Dieu dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. C'est Amalek qui avait lancé l'attaque. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple. Ensuite, au verset 14, il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Pour certaines personnes, c'est difficile à comprendre. Pourquoi Dieu ferait-il la guerre à ces gens de génération en génération? Et pourquoi dirait-il qu'il va les exterminer? Remarquons ce que dit Deutéronome au chapitre 25. Deutéronome chapitre 25 concernant la raison de cette guerre dont il est question ici. Regardons ce que dit le verset 17. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé toi-même. En d'autres termes, ceux qui étaient les plus faibles, peut-être ceux qui avaient des enfants en bas âge, ceux qui étaient peut-être plus faibles à cause de l'âge des personnes âgées qui traînaient un peu de l'arrière, comme cela arrive souvent lorsque vous voyagez en groupe. Et voici, Amalek. Il n'attaque pas les forts, il attaque les faibles à l'arrière. Il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Verset 19, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Plus tard, nous avons l'exemple de Saül épargnant certains des Amalécites que Dieu avait dit d'exterminer, hommes, femmes et enfants. Parfois, nous pensons, pourquoi Dieu exterminerait-il les enfants? Eh bien, regardez notre monde aujourd'hui. Amalek est toujours présent. Regardons l'Iran actuel avec sa double personnalité. Il y a là des Perses et des Amalécites. Dans l'histoire d'Esther, Aman, qui était un Amalécite, voulait détruire tous les Juifs. Et nous avons encore des individus dans cette partie du monde aujourd'hui qui veulent le faire. Et cela va de génération en génération. Si Israël avait fait ce que Dieu lui avait dit à l'époque, une grande partie des problèmes que nous connaissons au Moyen-Orient ne se poserait pas aujourd'hui. Nous avons parfois tendance à penser que nous connaissons mieux que Dieu. Mais Dieu connaissait la personnalité en cause. Il connaissait le caractère de ce groupe de personnes, influencé par Satan, sous l'influence de Satan. Nous savons très bien que Satan est tout à fait capable d'exercer son influence mauvaise. C'est intéressant de lire l'histoire vraie du livre « Jamais sans ma fille ». Le livre est mieux que le film. On y voit qu'il y a une puissante influence spirituelle dans la Perse, en Iran. Alors que la moitié du pays, ou une partie, un grand nombre de personnes, sont très pro-occidentales, comme l'était le Shah d'Iran, vous avez cet autre groupe de personnes, comme l'Ayatollah Khomeini, un Amalécite apparemment, selon son nom et son caractère. Ces gens ont détesté Israël, pas seulement les Juifs, mais aussi les États-Unis, qu'ils voient comme le grand Satan. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Le caractère des gens sans l'influence de Dieu, mais sous l'influence de Satan, le diable. Lorsque cette influence sera enlevée, tout deviendra très différent. Mais pour l'instant, c'est ce qui se passe. Alors, Dieu est-il injuste en éliminant certaines de ces personnes ou en commandant à son peuple de les éliminer à l'époque? Nous savons que nous ne faisons pas cela aujourd'hui dans notre monde, que nous avons un appel différent. Nous avons été appelés pour prêcher l'Évangile du royaume de Dieu au monde entier. Nous n'avons pas été appelés à transformer ce monde. Nous ne sommes pas une nation qui a dû se protéger comme le petit Israël l'a fait. Maintenant, en tant que nation, que ce soit la Grande-Bretagne, le Canada ou les États-Unis, oui, nous sommes des nations physiques qui ont parfois à se défendre. Et Dieu a combattu pour nous. Il nous a permis de subir certaines des conséquences de nos péchés. Mais jusqu'à présent, il nous a protégés en général. Mais cela va prendre fin à un moment donné, dans un avenir très proche, en raison de la façon dont nous vivons. Mais ce ne fut jamais le désir de Dieu de détruire la vie humaine. Pour Dieu, la vie humaine est précieuse. Remarquez ce que dit le chapitre 10 du livre de Matthieu, au verset 28. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En d'autres termes, craignez Dieu. Craignez Dieu donc. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Dieu sait, même quand un moineau, même quand un oiseau tombe par terre. Un jour, j'ai trouvé un petit oiseau dans notre garage. Je revenais d'un voyage. Apparemment, il s'est retrouvé pris là quand nous sommes partis. Il n'a pas eu de nourriture ni d'eau et il est mort. Il était là sur le dos. Je ne l'ai même pas montré à ma femme à l'époque, car je savais qu'elle serait très émue en le voyant. Mais je me sentais mal pour ce petit oiseau. Combien plus encore Dieu qui a créé cet oiseau et les ancêtres de cet oiseau qui l'ont fait naître. Dieu aime sa création. Il nous le dit ici. Jésus a dit très clairement que même un oiseau, un moineau, un tout petit oiseau, le plus commun pourrait-on dire, Dieu le regarde avec compassion. Et il ajoute qu'aucun ne tombe à terre sans la volonté de son Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Dieu est capable de compter les cheveux de notre tête. Je ne sais pas s'il a un registre actif pour chaque individu, mais si quelqu'un demandait combien de cheveux une personne a, il pourrait vous le dire. Il a cette capacité, il a tout créé. Il est capable de faire des choses que nous ne pouvons même pas comprendre, ni saisir comment il fait. En d'autres termes, Dieu est très préoccupé par chaque vie, et en particulier par chaque vie humaine. Il dit au verset 31, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Et il continue en expliquant certaines choses à partir de là. Mais le fait est que nous avons plus de valeur que beaucoup de moineaux, beaucoup, beaucoup de moineaux, pourrait-on dire. Qui sait combien il en faudrait? Mais en fait, en d'autres termes, nous avons plus de valeur que n'importe quel moineau, n'importe quel oiseau ou tous les oiseaux réunis. Reportons-nous à Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ainsi, même si Dieu a ordonné la mort des méchants, ou a fait venir sur eux un déluge, ou a fait pleuvoir du feu du ciel pour détruire les villes de Sodome et de Gomorre, ou qu'il a ordonné à Israël de détruire les Amalécites ou les Cananéens qui étaient dans le pays, Dieu dit que même là, quand on y pense, je ne prends aucun plaisir à la mort des méchants. C'était des gens méchants dont il a ordonné la mort, mais il n'y a pas pris plaisir. C'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. C'est ce que Dieu veut pour l'humanité, qu'elle se détourne de ses mauvaises habitudes. Et parfois, il faut que des choses terribles se produisent pour que les autres se réveillent et comprennent que certains comportements sont inappropriés, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont péchés. Il dit, « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Pourquoi devriez-vous mourir, ô maison d'Israël? C'est un avertissement pour nous. Ézéchiel parle d'Israël au temps de la fin, et spécifiquement ici de la maison d'Israël. Il dit, pourquoi devriez-vous mourir, ô maison d'Israël? Dieu ne veut pas que nous mourions. Il veut que nous vivions pour toujours. Et son attitude, nous pouvons la voir. Dans 2 Pierre, chapitre 3, il se peut qu'on vous ait déjà lu ce passage aujourd'hui, nous allons le relire. Verset 9 de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il est patient. Réfléchissez à ce mot. Dieu est patient. Il est très patient. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et il ne nous traite pas selon nos fautes. Mettez-vous un peu à la place du Dieu Tout-Puissant. Il nous a créés. Il est sur son trône. Il regarde ici-bas. Il nous voit nous assassiner les uns les autres. Il nous voit nous attaquer verbalement les uns aux autres et toutes les autres choses que nous faisons. Il nous voit nous calomnier les uns les autres sur Facebook, sur YouTube et à divers endroits. Il nous voit changer la définition de ce que doit être un homme et une femme. Il voit toute cette perversion qui se développe ici-bas sur la terre aujourd'hui. Quand un parent voit son enfant se faire du mal à lui-même, le parent a mal aussi, n'est-ce pas? Dieu est notre Père. Il est notre Père parce qu'il nous a engendrés, si nous sommes ses enfants de cette façon. C'est lui qui a créé l'humanité. Et c'est lui qui regarde toute l'humanité avec compassion et avec miséricorde. Mais parfois, il doit nous secouer. Il doit faire des choses pour attirer notre attention. Et généralement, cela signifie qu'il doit faire quelque chose de douloureux pour nous. Il dit donc que ce n'est pas sa volonté que quelqu'un périsse, mais plutôt que tous arrivent à la repentance. C'est son but dans toutes ces choses. Je sais que le monde utilise Jean 3, verset 16 d'une manière qui n'est vraiment pas correcte. En fait, les gens pensent qu'il s'agit simplement de dire que Dieu nous aime et que nous devons simplement nous aimer les uns les autres, et que nous n'avons rien d'autre à faire. Selon eux, tout a été fait pour nous. Ils utilisent mal ce texte puissant et le dévalorisent. En réalité, ils lui enlèvent toute sa signification. La brochure que j'ai écrite sur le sujet m'a amené à comprendre davantage qu'il y a tant de vérités que le monde ne connaît pas. Les gens ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour de Dieu. Ils ne savent pas qui est le Fils, qu'il était le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui a créé Adam et Ève, celui qui a énoncé les 10 commandements, celui qui a détruit Sodome et Gomorre. Ils ne comprennent pas ces choses que vous pouvez voir dans la brochure que j'ai écrite sur le sujet. Je n'avais pas réalisé à quel point le monde est confus sur ces points jusqu'à ce que je commence à m'y intéresser de plus près quand on m'a demandé de produire ce document. Si vous n'avez pas encore lu cette brochure, je vous encourage fortement à le faire. Cette déclaration est tellement puissante, car Dieu a tant aimé le monde. Pas seulement vous et moi, et quelques autres chrétiens, comme beaucoup de chrétiens le pensent. Plusieurs chrétiens pratiquants s'imaginent être sauvés et que tous les autres sont perdus, qu'ils brûleront en enfer pour toujours. Non, il est dit que Dieu a aimé le monde. Et il ne parle pas seulement de la création physique, il parle de sa création de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi est-il appelé Fils unique? Nous sommes également engendrés. Alors pourquoi est-il dit Fils unique? Lisez la brochure, vous y trouverez l'explication. Il a donc donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'était une expérience douloureuse pour Dieu le Père aussi. C'est lui qui a donné son Fils, même si son Fils l'a fait volontairement. Mais les gens laissent le Père de côté dans cette situation. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le monde ne sait même pas ce que signifie périr. Il pense plutôt qu'il pourrait vivre éternellement dans le feu de l'enfer. Mais qu'il ait la vie éternelle, c'est pourquoi il a donné son Fils, comme sacrifice, pour que nous-mêmes et le monde entier puissions avoir la possibilité d'accéder un jour à la vie éternelle. La vie éternelle! Quand vous pensez à cette vie, même si vous vivez jusqu'à 100 ans, ce n'est rien en comparaison de l'éternité. C'est une si petite fraction, et elle deviendra de plus en plus petite au fur et à mesure que vous avancerez dans l'éternité, jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement oubliée. Je ne sais pas si nous oublierons cette vie physique, mais nous oublierons certainement les larmes. Dieu a une vision infiniment plus grande. Cela me fait penser à un parent qui apprend à son enfant à faire du vélo. Le parent sait qu'il est bon pour l'enfant d'apprendre à faire du vélo, mais il sait aussi qu'il va tomber de temps en temps. Et le parent sait que cela va être douloureux dans certains cas. L'enfant tombe et pleure, et il y a une douleur temporaire, mais le parent a une vision d'ensemble. Il s'en remettra, elle s'en remettra. Ce n'est pas pour toujours, c'est juste pour une très courte période. Le parent réconforte l'enfant en ayant à l'esprit la vue d'ensemble, sachant que ce n'est qu'une courte période de chagrin. Et quand le chagrin est passé, il y a finalement une jeune personne qui peut faire du vélo et qui va peut-être faire le tour de France. Probablement pas votre enfant ou le mien, pas le mien en tout cas. Néanmoins, ces jeunes développent cette habileté, une habileté merveilleuse à avoir. Peut-être qu'ils utiliseront ce vélo pour aller au travail ou pour faire des voyages, des expéditions. C'est une chose appréciable. Nous comprenons que tout cela est temporaire, ces douleurs et difficultés que nous expérimentons. Il y a tellement d'autres choses dans la vie d'un enfant qui grandit. Il pleure souvent. Le parent sait que ce ne sera pas la pire chose qui soit jamais arrivée. Parfois, peut-être, dans le cas d'un enfant qui n'est pas assez âgé pour comprendre et qui pleure, il peut arriver qu'on dise à la blague « Courage !» car il y aura des choses pires que ça. Je plaisante parfois avec les parents dans de telles situations. Nous savons qu'il arrivera des choses plus graves. Il y a beaucoup de douleurs au cours d'une vie. Néanmoins, il y a de belles et bonnes choses. Assurément, la vie arrive avec ses blessures et avec ses bleus, n'est-ce pas? Nous en avons tous traversé et nous continuerons à en traverser. Dans le psaume 103, verset 8, c'est l'un de mes psaumes préférés. Nous allons commencer au verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Et cela remonte vraiment au 34e chapitre de l'Exode, quand Moïse voyait le dos de Dieu et qu'il proclamait le nom de l'Éternel. L'Éternel est miséricordieux, il est compatissant. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. La colère de Dieu ne sera pas toujours sur nous. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Vous savez, si Dieu traitait avec nous selon nos péchés, boum! Nous serions morts dès que nous aurions péché. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous ne recevons pas la punition que nous méritons. Nous sommes punis de temps en temps, mais jamais selon ce que nous méritons totalement. Encore une fois, parce que nous serions mis à mort, car la peine du péché est la mort. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Remarquez que c'est envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Pensez-y, d'est en ouest, aussi loin que vous puissiez aller, c'est jusqu'où il a éloigné de nous nos transgressions. Ces points cardinaux ne se rencontrent jamais, l'est et l'ouest. C'est toujours de plus en plus loin, un pas plus loin encore. C'est à ce point qu'il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il sait comment nous sommes faits. Il connaît l'influence de Satan sur nous et sa puissance. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Ceux qui respectent Dieu et qui l'honorent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. C'est la grande miséricorde de Dieu qu'il a envers nous tous et qu'il va avoir envers le monde entier lorsqu'ils viendront un jour à la repentance. Le livre de Jonas est très instructif. Je pense que c'est un cas intéressant, quelque chose que tout le monde connaît apparemment. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et que plus nous avançons dans ce monde, moins les gens comprennent vraiment. S'ils allaient voir le film sur Jonas, c'est une abomination. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu suffisamment de bandes-annonces et j'ai lu suffisamment de rapports à ce sujet pour savoir que c'était une terrible abomination. C'est anti-Dieu à tous égards. Allons à Jonas. Juste avant le livre de Michée, nous allons lire ici. C'est une étude fascinante sur la nature de Jonas. Il était un prophète de Dieu. Il sera sans doute dans le royaume de Dieu. Je pense qu'il sera un peu timide ou qu'il aura un visage un peu rouge, brillant comme le soleil, mais peut-être un peu rouge, quand les gens liront qu'ils seront qui il est et qu'ils lui diront « Ah, c'est toi, Jonas! » Ah oui, il y aura des moments comme ça. Vous savez, je pense qu'il y aura des moments comme ça au début, mais tout le monde aimera Jonas. Il a fait des choses que nous ne serions pas prêts à faire nous-mêmes. Nous lisons donc son histoire ici. Je vais commencer au chapitre 3, Jonas chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. C'est la ville de Ninive. Ce sont les ancêtres de l'Allemagne moderne. Ils avaient la même approche, très ordonnée. Ils pouvaient être cruels lorsque Satan les utilisait. Mais ils étaient aussi des gens merveilleux à bien d'autres égards, et ils le sont encore aujourd'hui, avec de grandes caractéristiques. Et il se trouve que Dieu les utilise. Remarquez qu'il les utilise non pas parce qu'ils sont plus mauvais que le reste d'entre nous, mais il les utilise pour punir Israël. Or, ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Quand nos nations se sont-elles vraiment repenties à la prédication d'un prophète de Dieu, comme l'ont fait les Ninivites, où Dieu a reporté leur punition pendant des décennies à la suite de cela? Lisons la suite au chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Voilà Jonas, il va vers ces gens. Il leur dit de se repentir, ils se repentent, mais il se met en colère. Il savait que ces gens étaient des ennemis d'Israël, et il ne voulait pas qu'ils se repentent. C'était sans doute l'une des raisons pour lesquelles il a fui au début, et qu'il ne voulait pas y aller. Il pria l'Éternel et dit au verset 2, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. » Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Là encore, on revient au 34e chapitre de l'Exode où le nom de Dieu est précisé. Ceci est la proclamation du nom de Dieu. Gracieux, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Verset 3. Et que tu te repens du mal. « Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Il dit, « Malheur à moi, je suis tellement déçu que je préfère mourir. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait à la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Ainsi Dieu a préparé non seulement un poisson spécial, mais aussi une plante spéciale une plante très spéciale. Et il a également préparé un verre spécial qui détruirait la plante très rapidement. Verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien d'utilité à cause de ce ricin? » J'ai créé cette plante. Je t'ai abrité pendant un certain temps. Est-il juste que tu sois en colère à cause de cette plante? Il répondit, je fais bien de militer jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine. Tu n'as rien fait pour le faire naître. Tu ne l'as pas fertilisé, tu ne l'as pas planté, tu n'as rien fait. Et le ricin t'a donné de l'ombre temporairement. Et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu voulait leur donner une chance avant d'amener la destruction de la ville. Et Dieu a eu pitié des habitants de Ninive. Il est lent à la colère et il est longanime. Nous voyons donc la mentalité de Dieu, même lorsqu'il s'agit de certains des ennemis d'Israël. Et bien sûr, nous pouvons lire comment Israël, l'Égypte et la Syrie seront ensemble, conjointement, des leaders du monde de demain. Nous voyons toutes ces choses. Dieu ne hait pas dans le sens où nous pensons qu'il hait les gens. Il est écrit qu'il a aimé Jacob et haï Ésaü. Cela veut simplement dire aimer à un degré moindre par comparaison. Cela ne veut pas dire que Dieu a radié ces gens pour toujours. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, allons à Romains, le chapitre 8, et nous allons commencer à lire au verset 14. Nous sommes très familiers avec ce passage. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous savons que cela signifie bien plus qu'une simple figure d'expression ou de discours. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes engendrés par l'Esprit de Dieu. Son Esprit même est en nous. Et nous allons naître dans sa famille. Il est dit que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, de filiation, par lequel nous crions « Abba, Père ». « Abba » est un terme affectueux, signifiant « cher papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, s'unissant à l'Esprit de l'homme, faisant de nous une nouvelle créature. Or, si nous sommes enfin, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous devons hériter de toutes ces choses, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a donc de la souffrance dans cette vie. Il y a même beaucoup de souffrance dans cette vie quand on y pense. Il y a beaucoup de bons moments aussi. La plupart d'entre nous ne souffrent pas plus que nous ne profitons de la vie. Mais il y a ces moments dans la vie, et parfois des périodes assez longues, surtout vers la fin de la vie, où il y a beaucoup de souffrance. Mais même là, il y a des leçons, non seulement pour nous, mais aussi pour notre famille, nos amis et ceux qui nous entourent. Dieu nous enseigne à travers cela. Il nous montre l'importance de son plan. Et comment la mort est notre ennemi. Toutefois, il vient un temps où il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a un temps à venir où les fils de Dieu seront révélés à ce monde. Et j'espère que ce sera vous et moi. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 18, Dieu parle de ses fils et de ses filles. Les femmes ne sont donc pas laissées de côté. J'aime cette écriture. Je suis marié à une femme qui sera fille de Dieu. et j'attends avec impatience des fils et des filles. Qui sait exactement à quoi nous ressemblerons dans le royaume en termes de spécificité et de tout? Mais Dieu nous fera véritablement entrer dans sa famille. Et il est dit ici, Romains 8, verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance. Dieu nous a donné de l'espoir, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. » Ça, c'est la pourriture, c'est la mort et la corruption. Il nous en a délivrés pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire vous et moi. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption ou l'accession à la filiation. La rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Ainsi, Dieu nous offre cette incroyable possibilité de devenir ses propres enfants. Et ce même espoir est ouvert à toute l'humanité, en fin de compte, comme le montre la fête d'aujourd'hui. Et j'espère que, plus tôt aujourd'hui, vous avez eu le message sur la signification de ce jour, d'une manière plus structurée. Allons au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Je ne vais pas lire toute la section. Je pense que nous la connaissons bien, et elle a peut-être été lue plus tôt aujourd'hui. Hébreux 2, versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire vous et moi, participant à cette chair physique et à ce sang, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Jésus s'est fait chair et sang. Notre Créateur s'est dépouillé de sa substance et il est descendu ici-bas en tant que simple être humain. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. L'humanité est une création très spéciale. Il nous faut grandement apprécier cette réalité. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il est donc descendu ici-bas afin de pouvoir être un souverain sacrificateur fidèle, dans tous les sens du terme. Il peut comprendre à quel point c'est difficile d'être dans la chair physique qu'il a créée. Il a voulu l'expérimenter lui-même pour mieux comprendre. Il a donné l'exemple. Il nous a conduits sur la bonne voie. J'ai déjà mentionné 2 Corinthiens 6, verset 18, qui parle des fils et des filles. Je n'y reviendrai pas. Dieu est en train de créer une grande famille. Il amène de nombreux enfants à vivre avec lui pour toujours, à jamais. Et c'est un long, long temps. Quel que soit le nombre d'années que vous puissiez imaginer, vous pouvez mettre ce nombre au carré, c'est-à-dire le multiplier par lui-même, encore et encore et encore, jusqu'à l'infini. Il y a tellement de choses dans cette vie qui nous bouleversent, qui nous préoccupent. On se laisse prendre par l'actualité politique. Quelqu'un nous fait quelque chose qui nous met en colère et nous ne voulons pas pardonner. C'est ainsi que certaines personnes réagissent. Mais écoutez, quelle importance cela a-t-il par rapport à l'éternité? La seule chose qui compte, c'est que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Si nous nous impliquons dans les choses de ce monde et que nous prenons parti pour telle ou telle cause d'une manière mondaine, nous pouvons passer à côté de toute l'éternité, manquer notre coup. Dieu est aux commandes. Il sait ce qui se passe ici-bas. Pour l'instant, nous sommes temporaires et la plupart des gens ne voient pas la situation dans son ensemble. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il y a des moments dans notre vie où nous perdons la vue d'ensemble. Quelque chose d'important se produit dans notre vie, peut-être la mort d'un être cher, peut-être la souffrance d'un être cher. Cela nous affecte assurément. Et nous sommes émotifs, nous devons l'être, mais nous devons toujours garder la vue d'ensemble. Il y a une perspective globale bien plus grande que tout ce qui se passe ici sur cette terre, que n'importe quel événement, que n'importe quelle guerre mondiale ou autre. Il y a une plus grande perspective au-delà de cela. Comme nous l'avons vu, Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des méchants. Il est gracieux, miséricordieux, indulgent et compatissant. Ce jour nous rappelle que ceux qui meurent sans avoir eu l'esprit ouvert, au cours de l'époque actuelle, font toujours partie du plan de Dieu. Selon ce plan, ils seront ramenés à la vie pour avoir une chance, pour être appelés. Pas une seconde chance, mais une première occasion de comprendre. En d'autres termes, si nous rejetons Dieu, quand nous savons vraiment de quoi il s'agit, et que nous avons eu l'occasion de connaître la vérité, de vivre selon la vérité, et que nous la rejetons, il n'y a pas de seconde chance, comme il nous est dit plusieurs fois dans le livre aux Hébreux. Mais nous parlons de personnes dont l'esprit n'a jamais été ouvert par Dieu. Il va ouvrir leur esprit et il va leur donner leur chance. Ils vont revivre. C'est ce que représente ce jour d'aujourd'hui. Ceux qui sont morts pendant le déluge de Noé vont être ramenés à la vie pour découvrir ce qu'est la grande perspective du plan divin. Ils réaliseront ce qui a été perdu quand Adam et Ève ont été chassés du jardin. Ils seront alors capables de comprendre la situation dans son ensemble. Les Amalécites qui, bêtement et par ignorance, ont combattu Israël, vont aussi avoir leur chance. Les gens pervers de Sodome, de Gomorre, des villes de la plaine vont se lever. Et nous savons, grâce aux chapitres 10, 11 et 12 du livre de Matthieu, que les gens de Capharnaüm et des villes de Judée de l'époque, qui avaient pourtant été témoins de nombreux miracles sans se repentir, seront aussi ramenés à la vie. Nous savons donc que cette opportunité sera également donnée à ces gens. Certaines personnes considèrent peut-être que nous critiquons sévèrement le mouvement LGBT, l'homosexualité et autres comportements semblables. Ce sont les actes que nous dénonçons. Mais ces personnes vont avoir leur chance. Dans de nombreux cas, ils sont vraiment misérables. Nous ne connaissons pas toutes les circonstances de la vie qui les ont amenés à arriver à ces conclusions. Bien sûr, Satan est à l'œuvre ici. Il met présentement toute notre culture sans dessus-dessous. Et il essaie de la détruire. Les gens pervers de Sodome et de Gomorre vont revenir à la vie et avoir leur chance. De plus, beaucoup de vos amis, de vos parents, de vos collègues de travail, de vos connaissances, de vos voisins, auront eux aussi leur chance. C'est une chose merveilleuse. Nous attendons tous avec impatience le moment où certaines personnes spéciales dans nos vies qui n'ont pas compris auront elles aussi leur chance. Tous auront une vraie première chance. Quelques-uns dans l'âge actuel, mais d'autres dans l'âge à venir, après le millénium. Ils seront ramenés à la vie, comme nous l'avons appris ce matin. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de notre appel et de la connaissance qui nous est donnée. Cette grande vue d'ensemble, cette grande perspective que Dieu a en tête pour nous, nous pouvons nous réjouir de cela. Nous ne devons pas regarder les autres autour de nous en pensant qu'ils sont perdus parce qu'ils ne comprennent pas la même chose et qu'ils vont aller en enfer. Absolument pas. Quel espoir ce serait? Quel genre de joie ça pourrait être de penser que votre père ou votre mère ou que d'autres personnes que vous aimez se trouveraient quelque part en train de brûler, de souffrir pour toujours. Ce n'est pas de l'espoir. Dieu nous a appelés. Il nous a donné la compréhension, la connaissance. Cette connaissance est si merveilleuse. Nous nous réjouissons aussi grandement de la justice de Dieu, de l'équité de Dieu qui va permettre à tous les êtres humains d'avoir une chance équitable d'être sauvés. Quand il va donner à tous ceux qui ont vécu la même possibilité que nous de vivre pour l'éternité. Voilà ce que représente réellement le dernier grand jour que nous célébrons.